Alors, je suis tellement contre les procédés de la justice. Mais alors, quand on essaie encore de la court-circuiter, n'est-ce pas, Ziegler, je pense qu'il faut aller prendre des cours de civisme et puis des cours de droit aussi. Mais je crois que tu es avocat. Mais enfin, peu importe, on oublie vite. Le droit s'oublie vite, surtout s'il est tortueux. Alors, je passe maintenant à un petit fait que j'aurais dû, au fond, évoquer il y a un mois. Alors, lors de l'avenue de Cicciolina, le nouveau
père... Est-ce que tu as été la voir ?
J'étais trop occupé, hélas, j'ai pas pu voir Cicciolina, mais...
Mais tu es quand même sensible, comme tous
les hommes qui traînent. Ah, mais Cicciolina, c'est une femme merveilleuse. C'est vraiment... C'est un modèle pour moi. Je ne dirais pas que je lui vois un culte, parce que je ne suis pas de ces gens qui... qui se fondent et qui acceptent tous les yeux fermés. Mais,
c'est pas un homme soumis, c'est ça?
Exactement. Cicciolina est une femme extraordinaire et vraiment, j'exhorte tous les gens à s'enthousiasmer pour une femme de ce genre. Alors, je disais ensuite que le procureur Jean-Marc Schwenter, parce qu'il avait vu une partie de Cicciolina qu'on ne voit pas tous les jours, enfin que si Schwenter était un assidu des nightclubs, ce que je lui souhaite un jour, il est peut-être encore pas assez vieux pour ça, mais ça viendra. Schwenter, au lieu de regarder le visage de Cicciolina, a été plutôt séduit par son pubis et a estimé que le journal 24 heures avait dépassé les bornes. Alors, naturellement, il a déposé plainte. Alors que lui-même, deux semaines avant, disait que, au fond, il faudrait faire preuve d'un peu d'humour. Alors, évidemment, devant le fait accompli, je vois que le procureur ne fait pas preuve d'humour.
Ça montre un peu une diversité d'opinion dans notre canton de Vaud.
Oui, oui. Mais quand l'opinion du procureur change comme on change de cravate ou de chemise, c'est tout de même bizarre. Alors, il y a Franck Fauré qui veut dire quelque
chose.
Enfin,
Max, laisse Franck Fauré s'exprimer.
Oui, oui. Ouais, je voulais juste dire au sujet de Cicciolina, justement, quand j'étais à la prison du Bois-Mermet, j'ai vu dans l'hebdo où... un journal du style, l'illustré, le chef de la police des mœurs, dans les bras de Cicciolina, photographié dedans, comme ça. Alors, je lui dirais un grand bravo.
Ça t'a choqué ou pas? Non.
Disons oui, parce que le copain qui était avec moi, il y a eu une fois une prostituée qui s'est fait agresser. Alors, elle lui a téléphoné parce que la police n'est pas venue. Après, ils l'ont mis dedans pour proxénétisme. Alors, quand je vois le chef des mœurs dans les bras de Cicciolina, je me dis que...
Il y a deux poids, deux mesures.
Voilà, je ne sais pas où ils vont, quoi.
Oui, mais il faut se dire que l'événement était tout à fait impromptu et que Cicciolina n'a pas demandé si l'inspecteur des stupes ou non, plutôt l'inspecteur de la morale publique était d'accord qu'elle vienne lui donner un baiser ou pas.
Voilà. Enfin bon, il pouvait pas Max faire... Max avocat.
Voilà, il pouvait...
On aura tout vu.
Il ne pouvait pas... il ne pouvait pas pleurer naturellement devant la caméra. Et il fallait faire contre mauvaise fortune bon cœur parce que... Bon, mais Cicciolina était bien inspirée. Il y a
des sujets plus sérieux.
Il y a évidemment des sujets plus sérieux, tristes, hélas. On a pu voir récemment à la télévision que la partie nord et nord-est du Sri Lanka est encore ravagée par la guerre, et alors qu'aujourd'hui même, Elisabeth Kopp et son lieutenant, ce qui s'appelle déjà son lieutenant Arbenz, estime qu'il n'y a plus de danger et que tous les Tamouls peuvent rentrer chez eux petit à petit. Alors évidemment, ces gens se demandent par quel service de renseignement ils obtiennent leur information, mais heureusement que la télévision est là et qu'elle nous a montré les ravages qui étaient encore causés par les troupes de l'État du Sri Lanka. Alors, je demande à ces sbires apparemment hautement qualifiés que sont Arbenz et Kopp de moduler leur jugement. Merci. Je ne termine pas pour autant. Une petite chose, évidemment, qui m'a fait rire, c'est les manœuvres Kekerspatz, moineau hardi en République fédérale allemande. Pourquoi est-ce que je parle de la République fédérale allemande? Ce sont donc des manœuvres franco-allemandes. Eh bien, tout simplement parce que la dernière fois, j'ai parlé de la Suisse et du colonel Lüthi, qui est un visionnaire, n'est-ce pas, qui voit l'Union soviétique nous attaquer au travers de ses chauffeurs de camions. Eh bien là, à sa décharge, je dois dire, le chancelier Kohl et le président Mitterrand se sont félicités et ont décrété qu'ils avaient gagné les grandes manœuvres face à de virtuels ennemis rouges. Alors c'est assez extraordinaire. Moi, ça me rappelle aussi les combats chimérique et don quichotesque que se livraient Idi Amin Dada et les Israéliens et les simulacres d'Israéliens, n'est-ce pas ? On voyait Idi Amin Dada devant les collines de Kampala en Ouganda et il disait que sur ces collines il y avait les Israéliens. Et alors on le voyait avancer avec ses tanks et puis à un moment donné il lève bravement la main et il fait signe à ses hommes de s'arrêter et ils disent ben voilà, on a gagné. Mais je crois qu'on a beaucoup ri d'Idi Amin Dada, mais je ne vois pas pourquoi on ne rirait pas aussi de Mitterrand et de Kohl.
Je pense que tu ne ris pas quand même quand Gorbatchev et Reagan vont signer un accord historique sur le désarmement.
Non, je ne ris pas, mais je reste encore indifférent parce que
désarmement... Parce qu'il
n'est
pas encore signé.
Oui, justement, il n'est pas encore signé. Et puis... il y a des démarches qui se font, les gens parlent, évidemment, chien qui aboie ne mord pas, mais il est tout de même regrettable de voir qu'on nous danse sur le ventre, malgré tout. Alors c'est pour ça qu'il faut qu'un autre pouvoir se crée, un pouvoir que beaucoup qualifient de terroriste. Moi, je dis simplement que c'est un pouvoir éminemment subversif qui doit se matérialiser, se concrétiser, se fortifier aussi. Nous sommes là pour ça. Nous commençons par les prisonniers, mais nous voulons aussi ensuite convaincre les prisonniers d'opinion et convaincre tous les indécis. Les indécis qui doivent entrer dans nos rangs parce que nous détenons la vérité.
Ça, c'était très évangélique comme ça.
Voilà. Et ceux qui sont prêts à dire que je ne détiens pas la vérité, mais ils peuvent venir le dire ici. Je ne vois jamais personne qui vient ici me porter la controverse.
Personne n'ose.
Alors, s'il y a des gens qui prétendent oser, mais ils sont bienvenus. Parce que la controverse, pourquoi pas, hein, j'adore ça.
Je crois qu'on réinvitera Franck Forêt la semaine prochaine ou une des semaines suivantes parce qu'il n'a pas eu l'occasion de tellement s'exprimer ce soir.
Oui, alors s'il peut venir la semaine prochaine ou les autres, de toute façon, maintenant, ça va être un collaborateur précieux. Il va certainement venir plus d'une fois à Radio Acidule. Là, maintenant, évidemment, comme c'était tout à fait impromptu, on n'a pas pu lui attribuer un temps de parole supplémentaire.
Alors, ni pour toi d'ailleurs, parce que le journal est bientôt terminé.
D'accord. Alors à tous les amis, à tous les détenus, et surtout à toi ce soir, Milko Voumar, nous te félicitons. Nous estimons que tu es maintenant celui qui va reprendre le flambeau au Bois Mermet. Je viens de recevoir ta lettre qui est extraordinaire. Je ne peux malheureusement pas la lire ici par faute de temps, mais on va en reparler. Et courage à toi et à tous les autres détenus.
Merci Max et merci Franck Forêt. Voilà, ce journal est terminé. Il se termine bien tard puisqu'il est 19h45. On laisse tout de suite la place à Café Noir et au reggae, bien sûr. Voilà, il y en a qui me font des signes depuis là-bas pour me...
Nous retrouverons bien entendu Max avec Résistance en direct pour la première partie du journal. Une place est née à Lausanne, l'itinéraire pour vous y rendre vous sera donné en milieu de journal. Et pour terminer, à propos de la privatisation des buanderies des établissements publics vaudois, Christine Dupertuis a invité des syndicalistes pour en parler. Mais voici tout de suite une information qui vient de tomber et qui émane de l'Office cantonal de l'information et qui va certainement intéresser Max, que nous retrouverons tout de suite après. Et voici la teneur de cette nouvelle. Ce matin à 11h, 12 détenus de la prison du Bois-Mermet ont refusé de quitter la cour de promenade et de réintégrer leur cellule. Ils ont fait parvenir au directeur une lettre de revendication. Ils y ont rappelé la récente décision du tribunal fédéral concernant les colis et ils ont demandé, entre autres, plus de temps de promenade et davantage de visites. Le directeur du Bois-Mermet a refusé d'examiner leur requête sous pression. Il leur a demandé de réintégrer d'abord leur cellule. L'intervention de la police a été demandée, vu le refus de donner suite à l'injonction du directeur. À 14h05, lorsque la police a pris position, les détenus ont cessé leur acte de protestation. 7 d'entre eux ont été transférés dans d'autres prisons de Suisse. La direction examine actuellement les différentes responsabilités dans la perspective de sanctions disciplinaires. Et puis ce qu'on peut dire encore, c'est qu'actuellement, tout est rentré dans le calme. Bonsoir Max.
Bonsoir.
Alors, des réactions à cette fraîche nouvelle qui vient de tomber ?
Oui, bien sûr. Mais tout d'abord, je voudrais dire qu'il y a ici Franck Forêt qui est avec nous.
Que nous remercions d'être là.
Et il pourra lui aussi donner son avis à ce sujet, puisqu'il n'y a pas longtemps qu'il était encore au Bois-Mermet. Bon, la réaction que je ressens là, c'est évidemment de l'indignation vis-à-vis de la réaction de la direction. C'est toujours la même chose. La direction essaie de criminaliser les actions et immédiatement de casser un mouvement avant d'entamer toute discussion en acheminant sur d'autres pénitenciers les gens révoltés. Je voudrais dire que le directeur Ramel n'accomplit pas les devoirs inhérents à sa fonction parce que, par exemple, l'autre jour, alors qu'il aurait dû... Ramel, donc, lorsqu'il était au tribunal fédéral, n'a pas assisté aux délibérations finales et au jugement. Il s'est empressé d'aller déjeuner. Probablement que on mange mieux dans les restaurants lausannois qu'au Bois-Mermet. Et je voudrais dire que cet homme essaie de se débarrasser rapidement des problèmes au lieu de les résoudre. On sévit d'abord, on discute après. Il n'y a que dans le système pénitentiaire qu'on trouve ça. Ailleurs, les discussions sont beaucoup plus humaines et on essaie d'atténuer les rigueurs de certaines conversations en étant intelligent.
Est-ce que tu peux rappeler un petit peu l'histoire des colis ? Le problème des colis, peut-être que nos auditeurs ne s'en souviennent pas, tu en avais déjà parlé.
Oui. Bon, c'était au début de cette année, le Conseil d'État avait décidé de supprimer les colis pour les gens qui étaient en préventive. alors que normalement, les gens qui étaient en préventive avaient le droit d'avoir, autant de colis qu'ils le désirent. Et il y a eu naturellement des protestations, il y a eu des recours. Et c'est tout récemment que le tribunal fédéral, c'est donc mercredi passé, que le tribunal fédéral a décidé que le droit au paquet était inaliénable et que les gens en préventive ont droit à leurs paquets habituels. Il semblerait que 6 paquets par année soient un minimum en fin de compte, mais nous pensons que le droit au paquet, à un nombre plus grand de paquets, ce droit ne sera pas touché. Ce minimum de 6 n'est pas à être respecté à la lettre. C'est un minimum de 6, mais un maximum qui n'est naturellement pas déterminé.
Voilà, Franck Fauré, vous étiez au Bas-Mermet dernièrement. Dans la revendication des détenus d'aujourd'hui, ils demandent de plus de temps de promenade et davantage de visites. C'est un problème
Ouais, bon, moi, je veux dire que je suis pas du tout étonné que ça bouge, parce que il y a pas mal à faire au Bas-Mermet.
Il n'y a pas suffisamment de promenades, par exemple.
Il y a une heure.
Une heure par jour.
Une heure le matin, alors c'est pas grand-chose.
Oui.
23 heures en cellule.
C'est long. Et puis le nombre des visites
Bon, mais ça, je crois que ça dépend tout des juges. C'est le juge qui donne l'autorisation par personne. Et ça dépend tout. Moi, quand j'étais là-bas, je voyais ma copine deux fois par semaine, avant d'être jugé. Parce que bon, le juge, il donnait deux fois, mais il y a des gens... comme une personne que je connais, ça fait 9 mois qu'elle est là-bas. Il a interdiction de correspondre. Tout son courrier lui est retourné et il n'a jamais eu de visite.
Et c'est dur.
C'est dur pour lui, ouais. Tous les jours, il me parlait, parce qu'il a 6 gamins. Puis il n'a aucune nouvelle, il ne sait pas où ils sont. Alors, bon, j'ai écrit à son juge pour dire que c'était pas normal de bloquer son courrier, qu'il ait le droit de communiquer. Il m'a répondu que je n'avais pas à me mêler de ça, qu'il avait un avocat.
Alors, c'est pas étonnant pour vous aujourd'hui si il y a ce genre de revendications qui sortent.
Non.
Et puis, il faut dire que ce juge a eu des propos désobligeants vis-à-vis de la Ligue suisse des droits de l'homme.
Ouais, c'est-à-dire que la personne en question est accusée d'avoir tué sa femme. Donc, Bon, ça n'a encore pas été prouvé, ça. J'ai dit au juge qu'il bénéficie encore de la présomption d'innocence.
Exactement.
Et il m'a répondu je lui ai dit que j'allais alerter la Ligue suisse des droits de l'homme. C'était inhumain d'agir de la sorte. Et il m'a répondu qu'il fallait que je demande à la Ligue suisse droit de l'homme si c'était permis qu'un homme outre la vie à sa femme sans raison apparente.
Oui. Donc, au lieu de répondre correctement, on essaie de s'esquiver. N'est-ce pas, monsieur Antonin?
Voilà, Max.
Alors,
tu veux encore ajouter quelque chose sur cette affaire?
Sur cette affaire, pour l'instant, on attend de voir. On essaiera d'adopter une attitude qui correspondra à la suite des opérations. Et en tout cas, je considère que les détenus, je les félicite. Vraiment, c'est génial. Voilà ce qu'il faut faire encore et toujours. Et c'est une question de civisme. Vous avez agi de manière civique. Je voudrais dire un grand salut à Milko Vumar, à qui nous allons écrire dès que nous le pourrons. Et je me réjouis encore de ce que le tribunal fédéral ait accordé le droit au paquet aux détenus. Et ainsi que, on peut donc le voir, la bande à Leuba a subi un revers qu'ils ont cultivé, qu'ils ont mérité. Grand bonjour à Christophe Clausen. Un merci pour sa lettre et félicitations pour son récent mariage. Et nous avons pris note que ton jugement aura lieu les 9, 10 et 11 novembre à Lausanne. Nous y assisterons. Une chose très grave aussi qui se passe au Bois-Mermet. Un détenu allemand du nom de Bernhard Fasler a entamé une grève de la faim voici 35 jours au moins. Il n'a vu aucun médecin, ni au début de sa grève, ni en cours, alors que la tension et le poids doivent être contrôlés. Personne n'a personne ne s'est occupé de Bernard Fasler. Je pense même que le directeur des établissements vaudois, Pedrazzini, ne sait même pas ce qui s'y passe. La responsabilité en incombe au directeur du Bois Mermet, Ramel, que j'exhorte ici à faire son devoir sous peine de prévarication.
Est-ce que l'on peut justement parler un petit peu plus des médecins, parce que je t'ai écouté attentivement vendredi passé, et puis j'aimerais bien qu'on revienne sur un point que tu as soulevé à propos de Licio Gelli, qui est incarcéré en ce moment à Chandelon, oui. Dans le canton de Genève. Et puis, il m'a semblé, peut-être que je me trompe, mais qu'en parlant du fait que Gelli n'avait pas été hospitalisé, il m'a semblé que tu prenais en quelque sorte un peu la défense de Gelli. Et puis, il me semble qu'il y a quand même un peu de disproportion par rapport au pouvoir et aux appuis que peut avoir Gelli. Et puis, si l'on compare justement peut-être à Bernard Fasler, qui, lui, n'a pas les avocats de Gelli. Alors, il me semble que... je ne sais pas, il me semble que Gelli a quand même suffisamment de force pour se faire entendre. Et je trouvais peu à propos que toi-même, tu t'insurges contre ce fait-là.
Oui, alors, je me réjouis vraiment que tu me poses cette question, parce que je saisis l'occasion que la presse et la radio et la télévision parlent de Gelli et montrent la sollicitude avec laquelle tant ses avocats que certains médecins suivent son cas, eh bien je saisis cette occasion pour montrer qu'il n'en est précisément pas de même auprès d'une grande majorité des détenus. Mais évidemment, si je parle du cas A, B ou C, sans savoir réellement qui sont ces personnes, parce que ces personnes, ni la presse n'en parle, ni la radio, naturellement. Alors, ça n'intéressera naturellement personne, hélas. Alors, je saisis l'occasion... Que les médias s'intéressent à Gelli pour lever le lièvre et montrer que ce qui est arrivé à Gelli, c'est-à-dire ce premier désintérêt de la part du pouvoir envers la santé de Gelli, eh bien, ceci se répercute puissance 10 vis-à-vis des autres détenus. Et plus un détenu est abandonné à lui-même, moins il suscite l'intérêt du médecin ou de l'institution pénitentiaire. Alors, ce qui est bon pour Gelli doit précisément l'être pour tous les détenus. Alors, il ne faut pas croire, n'est-ce pas, que j'ai pris la défense de Gelli pour ce qu'il a fait. Ça, c'est une autre histoire. Et du reste, mon opinion me regarde. Mais il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas des bons et des mauvais. Et je voudrais aussi m'insurger contre le fait que l'hebdo essaie de mettre en cause un juge en disant qu'il a eu des sollicitudes vis-à-vis de Gelli. Comme si, alors, il fallait être particulièrement odieux envers lui. Je dis que ni le juge Tremblay, ni du reste tout le pouvoir judiciaire ne me sont sympathiques, ni les journaux, et encore moins l'hebdo, s'il essaie de nous sensibiliser contre Gelli et essaie de nous dire qu'après tout, sa santé, elle n'est pas si préoccupante et il aurait mieux fait d'être en prison plutôt que dans un hôpital. Ce sont des propos qui sont aussi imbéciles et infantiles que de dire... que de dire que, par exemple, le juge Tremblay s'est arrangé avec lui et a eu beaucoup de sollicitudes à son égard. La question n'est pas là. Nous défendons les prisonniers. Et nous défendons, nous défendons les prisonniers vis-à-vis des humiliations qu'ils subissent. Et que ce prisonnier s'appelle Gelli, qu'il s'appelle du reste Monsieur Lebas, si un jour Monsieur Lebas va en prison, ce qui n'est pas exclu. Eh bien, je dirais que le jour où Lebas est en prison, nous serons fort heureux de le défendre.
Mais tu ne penses pas que c'est un habile stratagème de la part de Jelly et des avocats, surtout, et de ses avocats?
Si Licio Jelly est malade du cœur, s'il a réellement des problèmes cardiaques, eh bien, il doit gagner l'hôpital avant de gagner la prison. Et ceci est valable pour n'importe quel détenu, Jelly ou non. C'est bien clair. Maintenant, le stratagème, il n'est pas évident, puisque aujourd'hui, au moment où l'on parle, Licio Jelly a déjà regagné Chandolon. Il est en prison, Jelly, il n'est pas à l'hôpital maintenant. Donc je ne vois pas pourquoi on a fait tant de bruit autour de l'hospitalisation de Licio Jelly. Une hospitalisation qui est tout à fait naturelle dans son cas.
Je crois qu'on va... arrêter avec ce problème-là et peut-être passer aux nouvelles suivantes.
Oui, j'ai vu Jacques Fazel aujourd'hui, il est en congé. Il nous fait part d'un scandale qu'il y a à la Stampa, au pénitencier de la Stampa au Tessin. Ce sont les assistants sociaux qui font la police du pénitencier et qui ouvrent le courrier de l'avocat. Donc le courrier de l'avocat avec son client détenu. Ils utilisent pour ce faire le code de procédure pénale tessinois qui lui-même est hors la loi. En effet, la loi fédérale qui est au-dessus du code de procédure tessinois indique que la correspondance entre l'avocat et son client ne doit pas être entravée et ne doit pas être lu par les gens du pénitencier. Or, allègrement, M. Pellegrini, qui est un assistant social, qui est un sale flic, en réalité, ouvre ce courrier et entrave, et, ainsi donc, la correspondance entre l'avocat et son client. Il viole tout simplement la loi. Mais évidemment, puisque c'est un établissement pénitentiaire, on estime qu'il a parfaitement le droit de le faire. Donc, à ce sujet, Jacques Fazel nous en parlera un peu plus longtemps dans une émission suivante. J'aurai tout le loisir, du reste, de vous passer une bande à ce sujet. Encore autre chose qui nous ravit. Michel Rivoire désire louer une ferme pour y installer un élevage de cochons. Tous ceux qui connaîtraient quelqu'un qui céderait volontiers en location sa ferme, que toutes ces personnes contactent l'ADPS, boîte postale 129 1000 Lausanne 17. Cet élevage permettra à des détenus qui sont libérés ou en semi-liberté de venir passer leur semi-liberté ou leur stage de liberté avant d'aller plus loin, d'avoir un autre métier, etc. Donc une idée extrêmement généreuse de la part de Michel Rivoire qui va reprendre prochainement les dossiers de l'ADPS et peut-être même reprendre les émissions de Résistance en direct ici Radio Acidule, car il n'est pas exclu que pour un certain temps, je quitte l'endroit pour exercer des activités assez intéressantes à l'étranger.
Voilà.
j'ai encore quelque chose à dire. Jacques-Yves Muller, qui est notre... qui est donc le candidat figurant en deuxième place sur la liste « Légalisons le cannabis » dans le canton de Vaud, aurait finalement reçu le courrier intercepté par le charlot de service Clotty des EPO. Le directeur des établissements pénitentiaires cantonaux, Pedrazzini, a estimé qu'il n'y avait en effet rien d'inadmissible dans cette correspondance avec ses colistiers genevois. Eh bien, on voit qu'il y a quand même des personnes qui sont respectueuses de la loi. Entre autres, M. Pedrazzini fait son possible actuellement pour respecter la loi. Nous lui en savons gré, bien que il n'y ait pas lieu de féliciter quelqu'un qui respecte la loi, puisque c'est un devoir de la respecter. Mais enfin, vu les circonstances, nous remercions M. Pedrazzini de veiller à ce respect. Alors, pour ce soir, je crois ne plus avoir rien à dire. Il y a encore évidemment beaucoup de choses, mais je pense qu'on va... pour ma part, j'ai fini de développer.
D'accord, mais est-ce qu'on te retrouve quand même vendredi prochain?
Oui, vendredi prochain, je suis là.
Vendredi prochain, tu seras là.
Oui, puis encore... non, je pense que jusqu'à fin octobre, je suis là. Fin octobre.
Très bien. Eh bien, Max, Franck Forêt, je vous remercie d'être venu ce soir.
Merci, au revoir les gars.
La chanson du poète et les frissons du cœur.